La BA de Triangle of Sadness en français sans filtre. Hein. Déjà, pourquoi cette traduction? Pourquoi pas l'avoir traduit
Tu sais quoi ça fait référence, Triangle of Sadness?
Bah, le triangle de la tristesse.
En fait, j'ai vu sur Wikipédia que c'est une des seules infos qui est donnée sur le film, c'est que ça vient d'une expression de chirurgie esthétique qui sert à désigner une ride entre les deux yeux au niveau du front.
Mais c'est la ride du lion.
La ride du lion, quoi.
Bah, Triangle of Sadness.
Triangle of Sadness is the lion ride.
Exactly.
Wow.
Okay.
In a
world.
No in a world, Jack.
What do you mean, no in a world?
It's not that kind of movie.
Oh? Okay.
Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là.
Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie.
Removing the head or destroying the brain.
Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde.
On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée.
Accrochez-vous, ça va faire mal.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fais ta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune
objectivité.
Aujourd'hui, détour par la Suède qui elle-même a fait un détour par la région PACA pour accaparer cette palme dorée en mai dernier. Car oui, cette semaine, Fais ta BA déroule le tapis rouge pour la bande-annonce de Sans Filtre, le lauréat du Festival de Cannes 2022. Et sans filtre, nous le serons pour analyser au gré des vagues la BA de cette comédie satirique venue des terres du Nord. Alors, auditeurs, auditrices, mal de mer ou pas, prenez cette coupe de champagne, ouvrez votre Instagram et montez à bord du Zero Objectivity of the Sea pour qu'ensemble, nous voguions vers l'horizon. Mais avant tout, je me dois de vous présenter mon équipage pour cet épisode. Ambiance, sea, sex and fun.
Exciting and new. Come aboard.
Avec moi, mon équipage, William. Autrement dit, Willow Cocktail.
Eh oui, je serai le barman de l'expédition pour étancher vos soifs. De la bière pression au cocktail signature, j'ai de tout. Mon ingrédient secret, c'est mon sourire.
Wow. Clémence aussi est là, mais autrement dit, pour cet épisode, Judith Sundberg.
Bonjour tout le monde, je m'occupe du room service à bord et je vous promets des draps aussi blancs que vous tous, clients.
Kevin aussi est là, mais Kevin pour cet épisode s'appelle Bobby Bobinson.
Bonjour, bonjour capitaine, je suis politicien, je possède le bateau. Moi, je ne vous mène pas en bateau.
Oh, tu ne fais donc pas partie de l'équipage.
Je possède l'équipage.
Oh. Et pour finir sur cet équipage, Johan est là, mais Johan s'appelle pour cet épisode Isaac Paris.
Oh yeah.
Ok Isaac.
Voilà, bon, il se prend au jeu.
Et bonjour messieurs dames. Hey. Comme disait ma grand-mère, tout est bon dans le cochon, surtout après un tourné-retour.
Tourné-retour. Michael Dumas.
Michael Dumas.
Pour ceux qui connaissent.
Red Life in the Plunge.
Allez, voguons sur l'océan les amis, en direction de cette nouvelle BA, la BA d'une palme d'or. Oui, la palme d'or cette année, on va aussi se la faire. La présentation du réal, évidemment, comme à chaque fois, je vais vous présenter le réal que vous connaissez peut-être, Ruben Östlund.
Un petit peu.
Oh mais oui, Ruben.
Ruben Östlund, qui nous vient donc de Suède, réalisateur suédois, monteur, producteur, scénariste, directeur photo aussi également. Un beau CV pour ce réal suédois de 48 ans. Alors il a attaqué la fiction, le Ruben, à partir de 2004. Avant, vous saviez ce qu'il faisait ? Petite anecdote assez sympa. Avant tout ça, il était derrière la caméra pour faire des films de...
Gladiateur.
Non.
De cul ?
Non, des films de ski.
Ah.
Voilà.
Ah, c'est pour ça qu'il a fait snowthérapie.
Oui, ah, certainement, oui, ce sont des héritages hein, des films de ski. Voilà, il faisait des films de ski.
C'est vrai qu'on aurait.
C'est-à-dire des films de ski.
Tu skis, on te filme. Ça fait un film.
Il y a un scénario, enfin, je veux dire, c'est de la fiction ou il filmait juste des gens qui skient ?
Non, ça c'était pas de la fiction.
Il y avait du vent aussi, je suis sûr.
Certainement de la neige aussi, j'en suis certain. Il débarque sur la croisette Monsieur Ruben Östlund, avec un film dans la catégorie Un certain regard, Snow Therapy, tu en as parlé, Kevin, qui récolte en 2014 le prix du jury, ce qui n'est pas dégueulasse. Hein. Snow Therapy, pour rappeler un peu, c'est l'histoire d'un homme, d'un père de famille lâche, en fait, qui, face à une avalanche qui finalement ne détruit pas un chalet,
avait fui. Il abandonne sa femme et ses enfants. Face à l'avalanche.
Voilà, au lieu de les sauver, au lieu de se mettre devant comme bouclier, comme tout, tout bon père de
ce
famille.
Ce qui aurait été largement suffisant pour l'arrêter, du coup, en plus.
En anglais, le film s'appelle Force Majeure, et du coup, en français, il s'appelle Snow Therapy.
Force Majeure en anglais.
Ouais.
Donc en anglais, ils ont un titre français.
Voilà, et en français, on a un titre anglais.
Intéressant. Mmh. Intéressant. Snow Therapy, voilà, hein, qui raconte la lâcheté d'un père de famille, évidemment.
Et son déni derrière, en fait.
Tout ce qui va suivre, voilà, tout ce qui va suivre, c'est un peu le drame familial autour de son abandon
de
la famille.
En ce moment, c'est au théâtre, en ce moment, ils l'ont adapté au théâtre en France.
Ah ouais,
ouais, c'est avec Alex Lutz et je sais plus qui.
Oh.
Voilà. Elise et Moon.
Cette dernière info est fausse, évidemment. Bon, du coup, après le prix Un certain regard, forcément, ça franchit un step sur la croisette et il accède directement à la compétition officielle en 2017 avec The Square, qui, en reconnaissance internationale à ce moment-là, décroche la Palme d'Or en 2017. Donc, bah voilà. Hein.
Bah, beau petit CV, quoi, deux Palmes d'Or en quelques années, c'est pas mal.
Started from the bottom, from the ski to the Palme d'Or. Voilà, bravo Ruben. Et il revient en 2022 avec le film dont on va se faire la BA aujourd'hui, qui est Sans filtre, en anglais. Triangle of Sadness, qui est donc Sans filtre, qui débarque en 2022 en compétition officielle à Cannes et qui évidemment casse tout. Encore une fois, Ruben, il est habitué. Hein, cette fois-ci, il a mis la barre très haut pour faire le back-to-back. Après une Palme d'Or en 2017, et il repart avec la Palme d'Or en 2022. Donc voilà, et il rentre du coup dans le cercle très fermé des réals qui sont doublement palmés.
C'est le 9e, non ?
C'est le 9e, bravo, bien documenté. Mmh. Un cercle très fermé qu'on appelle les réalisateurs canards. Double palme.
Qui nage vite.
Oh. Est-ce que vous pourriez m'en dire d'autres, par exemple, pour eux ? Allez, jouons un peu comme ça, vite fait.
Oh, les Dardennes. Hein.
Les Dardennes,
c'était sûr.
Les Dardennes, effectivement, hein, pour représenter la Belgique, Jean-Pierre et Luc avec Rosetta et l'enfant. Donc, double palme d'or, pour le coup. Il y en a d'autres que vous connaissez aussi ? Non, pas Malik.
L'anglais triste.
Ken Loach, effectivement. Ken Loach qui représente le Royaume-Uni avec Le Vent se lève en 2006 et moi, Daniel Black, en 2016.
Woody Allen, il n'y en a pas eu.
Comment ?
Il n'y en a pas eu, Woody Allen 2.
Woody Allen n'a jamais eu de Palme d'Or.
Bah, tant mieux.
Tarantino, peut-être ?
Non, Tarantino, on a qu'une
seule.
Une seule. Non, il y a Francis Ford Coppola aussi, doublement palmé.
Ah.
Et oui, et oui. Qui avec a pris la double Palme d'Or avec Conversation secrète.
Est-ce que j'allais dire Conversation sûre, mais...
En 1974 et évidemment Apocalypse Now. En 1979, après on peut penser aussi à Anneke, hein, le ruban blanc, et Amour.
Amour et...
Et un autre que je connais pas, Shohei Imamura, qui représente le Japon, avec La Ballade de Narayama et L'Anguille. Voilà.
Pas vu.
Aucun des deux, ouais. Pas vu.
Ok, ça n'a pas sourcillé de la ride du lion autour de la table. Et Billy Auguste. Voilà.
C'est qui Billy Auguste ?
Billy Auguste. Danemark avec Pelle le Conquérant. C'est Pelle le Conquérant et Les Meilleures Intentions, 92. J'en oublie un aussi, Emir Kusturica, qui représente la Serbie.
D'accord.
Bon.
Très bien.
Bah, voilà. En tout cas, il rentre dans un cercle très fermé de réalisateurs multi-récompensés. C'est quand même une belle. Un beau palmarès.
Ah, surtout que lui, il est vraiment. Il y a que 5 ans qu'il sépare ces deux palmes. Je crois qu'il a le record par rapport à ça. Ah non, c'est faux, je dis de la merde, parce que Coppola, c'est 74 et 79. Ça fait 5 ans aussi. Enfin voilà. Bon, la BA de Triangle of Sadness, en français sans filtre, hein, comme les Gauloises de ma grand-mère. Sans filtre. On va se lancer la BA tout de suite.
Quoi.
Vous voulez bien ?
Allez, let's go.
Allez, c'est parti.
Allez.
Who looks paid for the tickets? Not bad, huh?
She's an influencer.
Not bad, not bad.
Yeah. So what do you do?
I sell shit.
The success of a luxury cruise, it mainly depends on you. Enjoy the moment. It's always, yes, sir, yes, ma'am.
No.
What? Everyone's equal.
Thomas, when you're able to hold the captain's dinner.
A toast to love.
I'm not a fan of fine dining.
There he is. He doesn't look well.
You okay, sir?
ship is going under. Russian capitalist and an American communist.
On a $250 million luxury yacht.
Stay focused.
We have to create a good group.
Who am I? You're the toilet manager.
No. Here. Captain.
Une belle blague IKEA pour terminer. Et ça fait sens parce que IKEA, c'est la Suède. La BA, nombre de plans par seconde. À peu près, vous
beaucoup.
Savez Non, beaucoup.
Ah,
hein.
Moi, j'ai compté comme ça 112.
112, non.
0,7.
A... 0,7 plans dans toute la BA.
Non, il y a 84 plans, 1 minute 41, ce qui donne une moyenne de 1,2 plans par seconde.
Oh, c'est gigantesque.
C'est beaucoup.
Ah, mais ça envoie. Il y a beaucoup d'images subliminales, épileptiques dans la BA. Ça envoie. Ça, c'est évidemment toutes les données qu'El Calculator, on pense à lui, m'a envoyé avant cet épisode. Hein. Il fait son boulot à distance. Et sa fonctionnalité que tout le monde aime, évidemment. Combien de pourcentage d'images voyons-nous dans le film ? Le calcul. Le film fait 2h20.
Oh,
et la BA montre 1 minute 30 d'images, ce qui nous donne 1% du film révélé dans la bande-annonce.
Pas beaucoup.
Non. C'est peu.
Un petit pourcent. C'est très peu. C'est très peu.
C'est pas beaucoup. Hein.
2h20 de film. Ça y est, on commence à refranchir la barre.
Aïe, 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 aïe.
Bon, moi, franchement, ça me dérange pas. Parce
moi non plus, c'est plutôt un bon réalisateur. Mais bon, 2h20, c'est toujours long, quoi qu'il arrive.
On va voir du quali.
Ça dépend des films.
On verra ça. La BA, on se l'analyse tout de suite. L'équipage, hop, prenez la barre, s'il vous plaît. Le temps que je...
Moi, je ne tiens pas la barre, je possède le bateau.
C'est vrai, je ne vous parlais pas à vous, je parlais au cuistot. Michael Dumas, je ne sais plus comment tu t'appelles.
Michael Dumas, c'est bien. Ouais.
Prenez la barre le temps que je retrouve mes notes. Alors, la BA, c'est parti, on se lance directement dedans. La BA s'ouvre sur de la musique classique, une petite musique, un petit mélange de clavecin et quelques cordes. Magnifique, n'est-ce pas ?
Quelle belle analyse.
Et elle s'ouvre sur un navire de croisière. Oui, attention à ne pas confondre avec un paquebot. Savez-vous pourquoi ?
Parce que c'est plus petit.
Eh non, le paquebot, en fait, il t'amène d'un port A à un port B et c'est fini. Alors que le navire de croisière, lui, c'est vraiment tourisme et compagnie, ça te fait faire le tour. C'est des vacances, quoi.
D'accord.
C'est une croisière. Et ça, je l'ai appris grâce à notre ami Wikipédia, voilà.
Merci Wikipédia.
À ne pas confondre, et vous pourrez briller en société ensuite, un paquebot n'est pas la même chose qu'un navire de croisière. La BA, du coup, sur cette image de navire de croisière, on apprend que c'est Backfilm qui distribue le film. Et pour la petite info, Backfilm, ce sont les distributeurs français du film, évidemment, qu'on a connu grâce à des films comme Sailor et Lula, comme Barton Fink, comme La leçon de piano, comme Pulp Fiction.
Pas mal.
Vous voyez le dénominateur commun
parmi tout ça. Doors.
La Palme d'Or.
Palme d'Or.
Donc les mecs, ils ont le flair, quoi. Ils distribuent pas que de la merde, donc ils prennent beaucoup de Palme d'Or. Voilà, c'est leur credo. Mais c'est pas tout. Avec une petite recherche, j'ai aussi trouvé qu'ils avaient distribué Scary Movie 1 et 2.
C'est bien aussi.
Ah ouais, ça c'est la palme.
C'est la palme en chocolat, quoi.
C'est, ouais.
Comme quoi,
c'est un autre style.
Comme quoi. Et
c'est bien d'être éclectique, quoi.
Pas mal de films d'animation aussi que vous connaissez peut-être, mais notamment côté Japon, ils ont distribué Les Enfants du Temps.
Ah.
Voilà, de Makoto Shinkai, qui est connu notamment pour Your Name. Qui fait partie du top 5 des records d'entrée.
Et dont on
Japon.
Attend le prochain film avec impatience.
N'est-ce pas ? Qui devrait arriver début 2023, si
exactement,
je ne dis pas de conneries. La BA, donc, on est sur un navire de croisière et on présente les personnages du film. Tout de suite, on a une influenceuse et son copain.
Ouais, c'est ça, deux mannequins en gros. Les deux sont hyper beaux.
Elle mange des spaghettis, mais étrange, elle s'arrête avant.
Oui, pour prendre la petite photo.
Oh,
qui va aller certainement
c'est
sur Instagram,
ça, les influenceurs.
Qu'on va liker par milliers, tellement certainement populaire que sa beauté a payé les billets, ce que dit son petit copain dans la BA. Ça rapporte, hein, le travail d'influenceur. Mmh. Sympa, hein, j'ai déjà pensé à faire ça moi aussi. Ça marche pas.
tu nous influences nous déjà, c'est pas mal.
J'ai pas voulu répondre, j'ai pas voulu prendre la perche.
Vous voulez dire que j'ai pas le corps pour ça, c'est ça ?
Non.
Ils ont été assemblés à table avec un autre couple.
Un autre couple, ouais.
Qui est alors dégueulasse au possible, c'est totalement l'inverse.
Eux, ils sont moches, ouais.
Oh le vieux, putain.
Ils sont vraiment
c'est...
pas beaux. Hein.
Moche, mais riche.
On ne critique pas le physique dans ce podcast.
Et d'ailleurs, le vieux, moi d'ailleurs, il me fait penser à Sylvain Durif.
Oui. Mais en gros.
En gros et vieux. Voilà.
Qui va du rive dans quelques années.
Et qui a réussi dans la vie. Donc un compte en banque qui va certainement avec. Et lui, il est vendeur.
De merde.
De merde. Ouais, ça a l'air d'être un russe, non? Ou un petit accent,
ouais, un petit accent
de,
roule,
d'Europe
là,
de l'Est, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Il vend des AK-47, quoi.
Ah ouais? Toi, t'es sur le trafic d'armes?
Bah, c'est un russe, hein, donc.
Tout de suite, excusez-nous.
Moi, je me désolidarise.
Est-ce que c'est pas l'acteur qui faisait déjà le parrain russe dans le film de Emmerich, là, avec 2012? Je crois que c'est cet acteur-là.
Oh, j'ai pas vu ça.
Où
hein.
Tu vas taper loin là.
Waouh.
J'aurais dû regarder avant. Désolé. Mais je crois que c'est lui.
Donc en tout cas, c'est un mec qui est dans l'import-export, quoi.
Sylvain Durif, ouais. Qui vend de la merde. Donc peut-être, non, peut-être que premier degré, il vend de la merde.
Bah, je sais pas, en anglais, il dit I deal shit, ouais. Mais tu deal shit, ça veut dire. Tu vends. Enfin, ça veut rien dire shit. C'est,
oui, c'est
comme tu dis un truc.
C'est un vendeur de shit.
Ça se trouve, c'est un vendeur de shit, tout.
Ça rapporte.
C'est un film très premier degré.
Il a mis la daronne à l'abri. Maintenant, il se fait une petite croisière, quoi. Donc, des riches de partout sur ce bateau de croisière. Donc, c'est une croisière de luxe.
Alors, j'ai l'impression qu'ils sont pas beaucoup sur le bateau. Est-ce que ça serait pas genre une espèce de sortie inaugurale où ils essayent de tester un peu le bateau et faire de la pub pour lui?
Bah, c'est possible. Hein.
J'ai l'impression qu'ils sont pas beaucoup, qu'on voit surtout que quelques membres d'équipage et que quelques rares passagers, non?
Ouais, mais en même temps, le bateau a pas l'air super gros non plus, tu vois. Ça a pas l'air d'être un bateau de croisière qui fait 40 étages comme il en existe, parce que quand tu vois les intérieurs, les salles et tout,
c'est ouais, pas c'est peut-être un truc ultra, pour ultra richou, et du coup, ils sont peut-être 10, mais parce que c'est ultra quali.
C'est méga cher, c'est quoi, sûrement.
Et surtout qu'on est peut-être induit en erreur, ou peut-être que c'est une subtilité de montage, parce que à ce moment-là, quand on nous présente le bateau et ses passagers, on a une voix off qui sonne qui dit la réussite de ces voyages dépend de vous. Donc, à ce moment-là, on nous montre les passagers. Donc, est-ce que ce serait pas aussi pour dire que c'est un test?
Alors, juste après, on a un plan de la chef d'équipe qui dit ça à ses troupes, surtout.
Donc, oui, je pense que c'est plutôt au petit personnel qu'on dit ça. Parce qu'en fait, c'est le genre de bateau sur lequel tu dois être servi comme un prince, une princesse. Tu vois, vraiment, tu dois avoir tout à ta disposition sur ces croisières-là. Donc, voilà. Tout dépend du petit personnel qui doit être aux petits soins. Et
en vrai,
il
aurait dit ça
aux
passagers, ça aurait été marrant, ça aurait pu faire un Hunger Games sur un bateau.
Et maintenant, tuez-vous. Voici un arc. Voici un flingue. Non, mais oui, effectivement, oui, monsieur, oui, madame, c'est tout ce que je veux entendre dans votre bouche. Ça, c'est le brief de la sous-capitaine, je sais pas.
Ouais,
c'est la
cabine crew major, quoi.
Ouais,
enfin,
c'est la chef de bord.
Chef d'équipe, ouais.
Donc, elle brief tout ça en disant, je veux entendre que ça. C'est votre rôle d'être aux petits oignons pour les passagers de ce bateau. Et là, tout de suite, dans le montage de la BA, on a un nom de quelqu'un d'autre de l'équipage. Bon, alors c'est un montage de BA, c'est pas la réponse directe, mais est-ce que ce serait pas du coup annonciateur d'une possible mutinerie?
Alors en fait, je pense que c'est en opposition à cette chef d'équipe qui dit à son équipe, vous devez être au top et rappelez-vous que le client est roi. On a une cliente qui essaye de faire croire à un membre d'équipage qu'en fait elle, son ego, mais elle dit ça depuis sa piscine avec son cocktail à l'équipage qui est genre quand même assez petit enfin, qui est là pour elle, quoi, qui a son attention et qui a pas l'air de pas trop pouvoir lui répondre, tu vois. Donc en fait, c'est quand même très ironique, j'ai l'impression, cette scène, tu vois.
Ouais, non, mais on voit aussi que, en effet, la nana qui doit servir la vieille riche là, elle a pas l'air trop d'accord, quoi. Enfin, elle a l'air d'avoir envie de se rebeller.
Ouais, tout le monde est égal. Pas sur ce bateau,
apparemment. Pas sur ce bateau, ça a pas l'air d'être trop le cas, mais.
Pas pour le moment,
un film social, donc.
En tout cas, ouais, voilà, c'est déjà grinçant pour le coup.
Acide.
Ouais. Acide.
Il va nous opposer en fait une lutte de classe sur un bateau fermé avec l'équipage et les clients qui sont de statuts et de statuts sociaux différents, quoi.
C'est ça.
On continue dans la BA et c'est une BA qui peut s'offrir un panneau du style après la Palme d'Or de The Square, découvrez la Palme d'Or, la nouvelle Palme d'Or de Ruben Östlund. Genre le mec, il vient à Cannes, il repart avec. C'est sûr pour lui. En tout cas, c'est bien montré dans la BA, il faut bien appuyer là-dessus, hein, c'est très marketing pour le coup. On a un nouveau personnage qui nous a introduit à ce moment-là.
Woody Harrelson
qui s'appelle Thomas, on l'apprend au long de la BA, qui est en fait le capitaine du bateau, tout simplement. Woody Harrelson, je m'attendais pas à le voir là, j'étais surpris de le voir dans ce film.
Ouais, alors moi personnellement, dès qu'il y a Woody Harrelson dans un film, je suis fan. C'est un de mes acteurs préférés, vraiment. Il est dans le top 2, je dirais, avec Mads Mikkelsen, tu vois. Donc il est dedans déjà, je suis heureux, voilà, je le dis.
Et on assiste à ce fameux dîner du capitaine, j'ouvre les guillemets, mais c'est vrai que dans les films, on voit souvent le dîner du capitaine où on réunit un peu les bestes. Les bestes du bateau.
C'est pour ça que je pense que c'est un voyage inaugural, mais en petit comité. Tu vois, moi, je pense vraiment que ça doit être le premier voyage de ce bateau-là qui est inauguré, et donc il risque d'y avoir des problèmes. Et du coup, ils ont invité quelques influenceurs, quelques grosses personnalités pour le faire avec eux.
Et en fait, ça va vraiment être en vase clos avec très peu de personnages. Et...
les VIP. Et ça tombe bien, en plus, ouais. Ce sont nos personnages principaux qui sont invités à la table du capitaine.
Alors moi, personnellement, j'ai un capitaine comme ça au bateau, je suis pas serein. Parce qu'il a l'air bourré H24, le mec.
Tu crois que c'est bourré? Moi, ah ouais, j'ai pas compris.
Sous drogue ou bourré, il a l'air en tout cas très fatigué. Et
Bah t'as vu les heures qu'il se fait aussi.
Ouais.
Enfin, franchement.
J'aurais un petit peu peur d'un Costa Concordia si tu veux. Tu vois, le mec essaye de frôler des récifs et qui se les prend. Quoi.
Je veux pas spoil, mais ça va finir un peu comme ça.
C'est prémonitoire ce que tu racontes.
Il a pas l'air d'avoir envie d'être capitaine en tout cas. Ça a l'air de le faire chier quoi. On vient frapper à sa porte genre en mode il serait peut-être temps de mettre votre chapeau là et puis d'aller faire votre boulot.
D'aller conduire le bateau.
Parce que là on vogue vers l'inconnu.
Capitaine, votre pantalon s'il vous plaît quand même.
Ils y mangent quoi, du coup, à ce dîner gastronomique, le fameux dîner du capitaine? Laissez-moi vous présenter le menu. Alors, vous aurez un avant et arrière raffiné de poiscailles aux feuilles de trèfle. Oh. Ou bien une gelée provençale et herbes du balcon.
Ça a l'air dégueulasse.
Demi-tentacule d'octopodes et fleurs du jardin. Ou bien ratatouille d'algues et moules sur son lit de cailloux blancs.
Tu te tapasses, quoi?
Il manque un menu.
Lequel?
Bah, le menu du capitaine.
Bah oui, parce que lui, il est pas très gastronomique. Hein. C'est pas très grande cuisine comme
je
il l'annonce.
Je trouve que cette réplique où il dit qu'il est pas très gastronomie, ça donne un peu l'impression qu'il est pas du tout comme les gens qui sont sur le bateau. En fait, il peut pas trop. On dirait presque qu'il se désolidarise des richoux.
Ouais.
Est-ce qu'il le fait de manière sincère ou est-ce qu'il le fait de manière fake, comme par exemple la passagère juste avant qui dit à la membre d'équipage ouais, on est tous égaux, mais va me chercher mon verre, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est ça.
Est-ce qu'il est réellement sincère?
Ouais. C'est difficile de savoir avec les riches.
Difficile de savoir. Surtout qu'après, ils en plaisantent avec un autre personnage un peu plus tard dans la BA.
Peut-être que c'est un imposteur aussi.
Tu veux dire? Qui tue des gens
et
tout.
Un espion russe.
Non, mais peut-être qu'il a pris la place du capitaine.
J'avoue, le mec, le capitaine, en fait, il est enfermé dans le placard ligoté. Et lui, c'est genre un cum lambda, tu sais, qui s'est invité à la fête, quoi.
Il veut juste aller aux Caraïbes, lui, en fait, ça se trouve. Il n'a pas trouvé d'autre solution que de kidnapper le capitaine, le vrai capitaine.
On s'en était jamais douté. Bon, il y a un moment, il a demandé une planche de charcuterie alors qu'il avait accès à un poulpe, on n'a pas compris.
Je me suis douté quand il a pris le burger. c'est ce qu'il mange, hein, lui. Alors, il y en a, il bouffe du calamar raffiné et lui, c'est burger. Burger frites. En même temps, c'est peut-être ce qu'il y a le meilleur. Hein,
c'est ce qui est le plus appétissant sur la table. Hein,
ça passe très vite dans la BA, mais quand vous mettez pause, ça n'a vraiment pas l'air très appétissant. Mmh. Et puis, on a l'air de bien se foutre de ta gueule niveau quantité. Quoi. Voilà.
Le repas tourne mal. Il y a l'air d'y avoir tempête.
Et on ouvre la page Storm is coming, ça commence à tanguer.
Mmh. Ouais.
C'est comme ça que j'ai écrit ça sur mes notes. Et tout ce magnifique repas, du coup, sera.
Il est vomi.
Je cherchais un mot plus
régurgité, rapide. Régurgité.
Ils ont rendu partout.
Rendu. Offert.
Régurgité. C'est peut-être ce qui a valu. J'avais vu quelques critiques passer comme ça. J'ai pas pu m'empêcher de les lire. Heureusement très courtes, mais qui disaient qu'en gros, à Cannes, il y avait eu beaucoup de mauvaises critiques qui disaient que ce film était dégueulasse. Parce qu'à mon avis, il va y avoir une énorme scène de vomi, quoi. Là, à ce moment-là, ça va commencer à avoir mal de mer plus repas pas terrible.
Et oui, mais il faut bien faire tomber les riches de leur piédestal si on veut les remettre au même niveau que les autres plus tard dans le film.
Oui. D'ailleurs, il y a un autre truc très prosaïque qu'on voit en une image très courte, c'est qu'on voit des toilettes qui refluent.
Comme dans Parasite.
Enfin, tu vois, qui débordent. Voilà, donc en fait, la merde remonte, quoi, en plus.
Face à la merde.
Avec le bateau qui tangue, ça fait remonter
les
toilettes.
Pas mal.
Face à la merde.
Excellent titre.
La fameuse chanson de Calogero, évidemment. Et pas si. Mais non, mais je voulais dire, c'est à ce moment-là qu'on est tous égaux, pour le coup.
Ouais.
Face à nos fluides, face à nos excréments, face à nos régurgitations, alors, nous sommes tous les mêmes.
Nos gaz, n'oublie pas.
Nos gaz aussi.
Pour info, quand t'as de l'eau qui régurgite dans les toilettes dans un bateau, c'est qu'il est en train de couler en général. Hein.
Bah ça tombe bien parce que c'est un peu ce qui va se passer avec le bateau. Une autre musique se lance, hein, aux chiottes, la musique classique, et après un petit Shazam évidemment. J'ai pu découvrir que le morceau qui se lance là, c'est un petit morceau pop, c'est sympa. C'est un morceau de Fred Again.
De comment?
Fred Again, qui s'appelle
Fred encore. Hein.
Oui, qui s'appelle Maria. Maria.
Maria.
Qui en latin et espagnol signifie marée, tout simplement. Et en roumain, ça veut dire mer. Voilà, j'ai fait mes petits travaux.
Google
Translate. Sans blague.
Je m'en serais pas douté.
Donc, je trouve que ça fait sens pour un film qui se passe sur la mer. C'était, j'avais envie de le dire, mais pour le coup, ils ont fait correspondre la musique de la BA avec le lieu où se déroule l'action. La mer, ça part en couillus.
Ça veut dire qu'on va avoir un OST marin que des chansons sur la mer.
Peut-être du Charles Trenet qui va se lancer sur le générique de fin. Ça part en couillus, hein, pour rester dans le latin, enchaînement d'images à ce moment-là dans la BA, et c'est là que ça a pété les records, hein, 1,2 plans par seconde. C'est parce que ça, beaucoup d'images qui nous sont présentées comme ça assez rapidement. Et on voit notamment dans, dans cette flopée d'images Sylvain Durif qui nous fait une annonce qui dit que le bateau va couler. J'ai essayé de faire un accent russe, j'ai pas réussi.
C'est pas ça, ouais. C'est...
Le bateau va couler.
C'est mieux.
Bien, ouais, bravo.
Bof, pas terrible. Donc le bateau coule, les chiottes remontent. Ça commence à tanguer, d'ailleurs ça se voit directement à l'image. Hein. Petit dispositif de mise en scène sympathique. Mmh. J'espère que ceux qui sont sensibles au mal de mer vont pas faire en sorte que la salle ressemble à ce restaurant.
À la salle de Miam.
Oui. Où tout le monde vomira en salle.
Et à votre avis, pourquoi le bateau coule? Quelle est la raison, la cause?
Ah bah, on le voit.
C'est une bonne question.
Alors, on voit clairement.
C'est pas le repas. Enfin, tu vois, le montage nous dit pas.
Il y a l'air d'avoir une tempête, mais puis bon, il y a le bateau qui explose
quand
même
à un moment.
C'est ça que je me pose.
Mais d'où vient l'explosion? Révolte du petit peuple. Ah, mais c'est le Mossad
qui attaque le bateau.
Ah, ça serait
pour
énorme.
Faire un gros message en mode puisque c'est ainsi, on vous emmène avec nous, vous allez mourir. Et voilà.
Bonne question. Je vais relancer le truc plus tard parce que c'est vrai que ça va arriver plus tard, le bateau qui explose, mais on peut se demander s'il y a tempête et tout, pourquoi il coule pas en fait. En fait, non, il explose plus tard. Est-ce que c'est le même bateau?
Alors, j'ai l'impression que le film, il va être séparé en trois grosses parties. Il va y avoir une première partie, genre tout va bien sur le bateau. Et je pense qu'il y a une grosse partie avarie où le bateau ne bouge plus jusqu'à ce qu'il coule. Parce que pendant ce montage épileptique, on voit plusieurs scènes un peu étonnantes que tu verrais pas sur un bateau de croisière. Genre le russe qui est tout seul devant le micro dans le bateau, comme si personne surveillait, comme s'il y avait.
Je crois que c'est dans la panique qu'il a dû prendre place.
Ah ouais, parce qu'il a l'air vraiment genre avachi, un peu bourré, genre.
Il est au bout de sa vie.
Il prend son temps, quoi.
Et qui dit à ce moment-là, le bateau va couler. Non, toujours pas.
Non, mais c'est vrai que toutes ces images font penser un peu à Titanic. Et dans Titanic, c'est long, quoi, le moment où le bateau il est en train de partir en couille.
Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Peut-être les canalisations bouchées par.
Par le repas.
Le capitaine, tu sais, les burgers, c'est dur à digérer. Quand même.
Ils n'avaient pas vidé la fosse sceptique du bateau et c'était trop lourd.
Ah, une erreur de dégazage.
En tout cas, j'espère que l'explosion sera mieux faite dans le film parce que là, dans la BA, c'est un peu genre pas fini. Non, on dirait un peu un stock auction.
Un capitaliste russe et un américain communiste sont sur un bateau de luxe à 250 millions de dollars. On dirait le début d'une mauvaise blague. C'est ce que pourtant la discussion qu'on entreaperçoit là dans la BA entre Woody Harrelson, le capitaine, et notre fameux Sylvain Durif qui vend de la merde.
Il dit un capitaliste russe et un américain communiste.
C'est marrant.
Du coup, est-ce que c'est pas le coco, est-ce que c'est pas Woody Harrelson?
C'est lui. C'est lui l'américain.
C'est pour ça qu'il mange des burgers et pas du poulpe.
Parce que les communistes, ils mangent des burgers.
Voilà,
c'est
bien
connu. Non, mais du coup, c'est pour ça, je pense vraiment qu'il est pas du tout dans le même délire que ses passagers.
C'est sûrement lui qui a incité le peuple à se révolter.
Non, mais en fait, c'est ça. En fait, c'est pas du tout le capitaine, c'est un agent du Mossad, ce gars-là. Et c'est lui qui fait exploser le bateau.
Et pourquoi le Mossad?
Pourquoi le Mossad? Ils sont pas de gauche, le Mossad.
Les complots.
Parce que c'est vrai
c'est
que
bien,
même,
si j'avais dit CIA, ça aurait choqué personne. Hein
si.
Le Mossad, donc, du coup, qui est là, qui était,
qui était
dans la soute.
On ne sait pas pourquoi.
Dans
ils,
la
sont
soute. Ils sont partout. Les panneaux critiques qui se montrent dans la BA, virtuose selon le Parisien, hilarant selon La Voix du Nord, décapant selon Paris Match, irrésistible selon Ouest France. Décidément. Waouh!
Surtout le décapant, c'est.
Si ça décape, c'est bien.
C'est curieux.
Et là, oui, on a le bateau qui explose. Pourquoi, je ne sais pas, c'est bizarre. En fait, on dirait que le bateau. Peut-être le bateau ne fonctionnait plus. Et du coup, ils ont. Pas accosté, mais ils sont.
Ils s'est arrêté. Les canaux de sauvetage.
Il s'est arrêté pas loin de l'île sur laquelle ils vont s'échouer. Enfin, où ils vont devoir essayer de trouver refuge, en fait. C'est peut-être ça. Et puis après, ils le font exploser, ou j'en sais rien.
Enfin, moi, en tout cas, je pense que cette partie où le bateau n'avance plus parce qu'il y a une avarie, je pense qu'elle va être longue dans le film.
Trop space.
Ou alors ils sont obligés de quitter le bateau avant qu'il coule et ça explose et ils le voient de loin sur l'île.
Ouais.
C'était inévitable qu'il explose.
Ou bien c'est la fin du film. Je sais pas. En tout cas, le bateau explose et il ne coule pas. On comprend qu'ils échouent sur une île, évidemment. Oui, une île, je pense. Hein. Et là, on voit entre Titanic et la grande bouffe selon Midi Libre. Très sympa, j'aime beaucoup.
Surtout combinaison.
Vous l'avez vu, la grande bouffe ou
Non,
j'ai pas vu.
Un peu insupportable à regarder. Ça avait retourné la croisette aussi à l'époque. C'est l'histoire de quelques amis qui se réunissent dans une maison éloignée dans la campagne et qui décident de se suicider par la bouffe. Donc, ils vont manger à excès jusqu'à en crever.
Donc
c'est un peu crado.
On est face à des scènes qui sont très crado, très crado.
C'est très crado là aussi.
C'est très provocateur, évidemment. Le début d'une nouvelle aventure sur cette île, on les voit qu'ils s'organisent pour la survie dans ce milieu hostile. Je dis hostile parce qu'on entend un cri qui nous vient de la jungle. Qu'est-ce que ça pourrait bien être?
Alors, soit c'est un vélociraptor, soit c'est un connard qui était caché qui leur fait peur. J'arrive pas à savoir si c'est un vrai cri de bestiole ou Woody Harrelson caché qui fait.
Sauf c'est un naufragé d'avant.
C'est Tom Hanks.
Et c'est Tom Hanks.
Wilson. C'est marrant, oui, je sais pas trop ce que c'est, animal, personne.
Parce qu'ils ont l'air d'avoir peur, mais bon, c'est, enfin, ça va quoi, c'est plus, tu les surprends, ah mon dieu.
Est-ce que c'est une blague ?
C'est oui.
Une
petite hystérie collective peut-être.
Possible. En tout cas, pas beaucoup de survivants pour le coup, là on peut pratiquement les compter sur les doigts des mains. Ils s'organisent dans ce milieu et là on a un enchaînement d'images encore une fois qui nous expose brièvement ce qu'ils vont devenir. Et il y a notamment ce fameux, comme dans tous les films un peu de naufrage, on peut penser à des films comme, enfin des films, des livres comme Sa Majesté les Mouches et tout, mais bon, où il va y avoir un conflit de pouvoir, ils vont devoir
trouver un coquillage pour prendre la parole.
Et qui dit tout ça, dit évidemment violence qui va ressortir de tout ça.
Les cartes sont rebattues.
Les cartes sont rebattues, les rôles s'inversent. Mmh. On a le titre qui apparaît, sans filtre, The Triangle of Sadness. Et évidemment, la petite blague Ikea qui vient redéfinir la hiérarchie établie. Tu nous expliques ça, Johan, la petite blague Ikea de fin de BA ?
Eh bien, c'est la madame pipi du bateau qui apparemment a très mal fait son travail et qui, s'enveloppe, qui s'enveloppe dans un espèce de poncho dégueulasse et qui dit « Moi, plus madame pipi, moi, capitaine. »
Moi, maintenant, capitaine.
Voilà.
Ça se trouve, c'est elle le vrai antagoniste du film, tu sais.
Ça m'a beaucoup fait rire pour le coup, honnêtement, ce petit passage. Quoi. Et c'est la fin de notre bande-annonce de la semaine. Voilà. Est-ce que ça vous donne envie de voir ce film avec cette bande-annonce, Johan ?
Oui. C'est rare qu'un film à Cannes me donne envie d'y aller, parce que ce n'est pas franchement le cinéma qui m'intéresse, mais je suis curieux.
Est-ce que tu avais vu The Square, son
non,
premier ?
Non, je n'ai vu aucun film de lui.
Vous donc avez vu The Square, l'écologue, je crois. Hein.
Oui.
Toi aussi, William ?
J'ai pas vu The Square, par contre, j'avais vu Snow Therapy qui m'avait vachement plu.
J'ai vu Snow Therapy.
On avait parlé de The Square dans un épisode, je crois que c'était pour l'appel de la forêt. Alors vous me direz quel est le lien ? Si, c'est Terry Notary qui jouait dans The Square, qui joue le chien dans l'appel de la forêt. Mmh. Évidemment, c'est du stop, enfin pas du stop motion, mais du
performance capture
dans l'appel de la forêt. Mais dans The Square, il a ce rôle de gorille dans cette fameuse scène de banquet.
Et tu sais ce qu'il a fait aussi depuis ? Ils ont fait appel à lui dans Nope de Jordan Peele pour le singe.
Pour le singe.
Quand il est en CGI. Enfin, il est tout le temps.
On peut en dire
aussi.
Plus, mais le singe de Nope. Mmh. Comprendront ceux qui ont vu Nope.
Ouais.
Mais oui. Ouais, bah, il est souvent appelé pour faire des animaux, en fait, simplement. Il est aussi dans la trilogie du...
La planète des singes.
La planète des singes.
C'est le nouvel Andy Serkis.
C'est un peu ça, ouais. C'est un peu la relève, quoi. Parce qu'il a des expressions animales qui correspondent bien. Il est très expert là-dessus.
Et pour la performance capture, quand l'acteur est très expressif, ça permet derrière aux animateurs de pouvoir recalquer leur animation sur ce qu'a fait l'acteur avec son visage. Donc il faut des visages avec des physiques bien particuliers, bien expressifs.
Lui, je pense qu'en l'occurrence, c'est pas le visage, c'est plus le corps.
La gestuelle.
La gestuelle, peut-être. Du corps.
On en avait parlé donc du coup dans cet épisode L'Appel de la Forêt, Terry Notary, The Square, un film qui avait aussi marqué la croisette et qui méritait clairement pour moi personnellement, en tout cas je le dis, La Palme d'Or et qui était très bien, mais très bizarre, mais très bien. Mmh. Kevin, as-tu envie de voir ce film après cette BA ?
Oui, j'ai envie de voir ce film. Déjà, j'avais beaucoup aimé The Square, son film précédent, qui était déjà La Palme d'Or, nouvelle Palme d'Or pour lui, donc je suis assez curieux de voir ça, surtout que c'est un film qui a été plutôt controversé sur la croisette. C'est une Palme d'Or qui ne fait pas l'unanimité, comme celle de l'an dernier avec Titan. Du coup, ça m'intéresse pas mal.
C'est vrai que c'était compliqué de définir qui allait gagner La Palme d'Or jusqu'à la toute fin, en fait, pour cette édition-là de la croisette. Il y avait Armageddon Time de James Gray qui était pas mal favori, et puis en fait, que dalle. Rien du tout. William, as-tu envie de voir ce film ?
Bah oui, parce que le seul film que j'ai vu du réalisateur m'avait beaucoup plu. Ça a l'air d'être quelqu'un qui maîtrise quand même pas mal son sujet en termes de mise en scène. Et Woody Harrelson, quoi. Donc, oui.
C'était la raison numéro 1.
Ah oui. Oui, j'ai essayé de faire genre, mais c'est Woody Harrelson, le vrai.
Ah, la groupie.
Ah ouais, c'est vrai. Je reconnais.
Et Clémence, enfin ?
Oui, ça me donne envie, mais ce qui m'interpelle le plus, c'est que ça a l'air plutôt narratif. Et j'avais bien aimé The Square, mais The Square, pour moi, c'était plus des sketchs. En fait, je ne saurais plus raconter s'il y avait une histoire vraiment liée au musée, au truc, l'art moderne. Pour moi, c'était vraiment des scénettes,
bah,
un enchaînement de scénettes.
Le nom, justement, d'un nouveau dispositif artistique,
ouais.
Où
mais...
c'était juste un carré et ça tournait autour de ça. Entre autres, et puis...
Tu vois, pour moi, il n'y avait pas vraiment d'histoire, ou en tout cas, c'était des personnages, mais qui ne se croisaient pas forcément, enfin, je ne sais plus, bref. En tout cas, il y avait un ton particulier, mais là, ce qui m'interpelle beaucoup avec ce film, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un fil d'histoire beaucoup plus évident, quoi.
Avec des péripéties.
Et avec des rebondissements un peu burlesques, tu vois, les riches qui vomissent.
Ça a peut-être l'air moins aussi psychologique que The Square, où vraiment, là, on était sur est-ce que c'est réel, est-ce que ça ne l'est pas, parce qu'il y avait des scènes qui sortaient vraiment... qui était surréaliste en fait dans The Square. Là, pour le coup, bah, du moins de ce que nous montre la bande-annonce, ça a l'air vraiment d'être l'histoire d'une lutte des classes face à un naufrage et de la redisposition de la hiérarchie.
Est-ce que ça pourrait pas être un film qui serait avec deux tons ? Tu sais, ça commencerait comme une comédie assez légère et ça finirait en vrai grand drame, tu vois. Ça pourrait être le cas ?
Oui, il y a moyen que ça parte dans un truc bien badant, je sais pas. Hein.
J'aimerais bien que ce soit ça.
Ils en découdent. Bref, qu'il y ait des morts.
Ils vont en
découdre. Des morts horribles.
Bah, si c'est dégueulasse, peut-être que ça se joue aussi sur les morts, je ne sais pas.
Et toi, Romain ?
Ouais. Voilà.
Merci.
T'as envie de le voir ?
Non, très envie de le voir. Évidemment, toujours curieux de voir la Palme d'Or de chaque année, pour le coup. Et Ruben Östlund m'avait beaucoup surpris avec The Square, que j'avais vraiment apprécié. J'avais beaucoup aimé Snowtherapy, que je regrette d'avoir vu dans l'avion et pas au cinéma. Je l'avais vu dans l'avion à l'époque. Mais très surpris par ce film. C'est comme ça que je l'avais connu, en fait. Et donc ouais, non, envie de voir le back-to-back de cet homme-là, parce que vraiment, gros respect pour, à 5 ans d'écart, prendre une Palme d'Or, et puis surtout pour pouvoir juger si c'est justifié ou pas. Donc entre-temps, il faudra aussi découvrir les autres films qui vont sortir un peu petit à petit. Mais ouais, non, très très envie de le voir, et puis ça a l'air d'être magnifiquement interprété par chacun, j'ai l'impression. Donc ouais.
Par contre, j'ai l'impression que la bande-annonce dévoile beaucoup de... Alors, à moins que ça dévoile pas beaucoup de portions du film, dans ce cas-là, ça va être un rythme effréné pendant 2h30 et on va être fatigué. Mais on a l'air de voir tout le film.
D'ailleurs, je pense que d'ailleurs, tout l'arc sur l'île va durer très longtemps parce qu'on n'en a pas parlé, mais dans la BA, je crois qu'il y a un plan dans le montage épileptique où on voit vraiment le russe, là, avec une énorme barbe.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Donc, à mon avis, je pense que ça a duré longtemps sur l'île.
Il y a au moins quelques semaines qui doivent séparer.
Quelques mois même.
Ouais, parce qu'il est sans barbe au début et après on va avec une grosse barbe. Et puis surtout, il y a beaucoup de violence à ce moment-là.
Je pense que ça va durer assez longtemps.
Une meuf qui éclate face cam la tête de quelqu'un, certainement avec un caillou. Donc, ouais, ça se trouve, en fait, à la fin, il n'y a pas d'issue et que tout le monde crèvera comme des gros connards.
Tout le monde s'entretue, quoi. Bah ouais, c'est ça l'humanité.
C'est ça, c'est comédie satirique en même temps. Donc, ce ne sera pas aussi une manière de nous démontrer. En utilisant justement cette mise en scène-là pour nous montrer à quel point la société est vouée.
Finalement, très dispositif parasite au fond, je trouve. Ah. Sûrement dans la construction. Parce que c'est un peu la même construction dans Parasite. C'est que ça finit sur de l'ultra-violence aussi.
C'est vrai. C'est vrai. On découvrira tout ça au cinéma à partir du 28 septembre. Ça, c'était nos attentes, notre avis, nos films autour de la bande-annonce. Mais qu'en pensent les internautes sur Internet ? C'est le comme ci, comme ça, comme chaque semaine.
Comme si, comme ça, comme si, comme ça, les commentaires des internets,
comme si, comme ci, comme ça,
les commentaires des internets.
Clémence, c'est ta rubrique, c'est tes commentaires, qu'est-ce que tu nous as trouvé cette semaine ?
Eh bien, j'ai trouvé deux teams d'internautes face à cette BA. Il y a la team des Français versus la team des pas Français, et ils n'ont pas le même niveau d'enjaillage, clairement.
Oula.
Donc, alors nous, les Français, on n'est pas fun. On est un peu prout-prout, quoi, un peu chiant. J'ai trois commentaires d'internautes français qui n'ont pas trop envie de voir le film. On commence avec Véro la Chenille, qui a commenté « Au rayon bande-annonce, genre compile de spoilers, cette BA a la palme. Quel dommage, plus de surprises, plus envie de payer. »
Plus envie de payer. Je ne pourrais
plus. Impitoyable, la chenille.
Je suis pas forcément d'accord.
Non, moi je pense qu'elle se fait avoir par la BA qui doit être assez mensongère.
Ouais, c'est pas une experte de la BA, ça se voit.
Oui, mais ça, peut-être ça fait quoi ? Ce que disait Johan, c'est que ça montre quand même beaucoup de choses de ce qui va se passer dans le film.
Juste ce qu'il faut, ça se trouve. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg.
Ça montre beaucoup de trucs, mais en même temps, c'est la partie épileptique, là, elle est. T'as l'impression qu'elle est montée dans tous les sens parce que.
Oui, ça passe du bateau, voilà. Ça passe sur l'île.
Donc, en fait, ça montre tout et rien. En fait, on l'a bien vu, on sait pas ce qui va se passer.
Spoiler ou pas, ça, on le découvrira en salle.
En tout cas, Véro Lachenille n'était pas convaincu. JC non plus, JC qui dit ça promet, évidemment, les gens qui aiment pas vont critiquer mon commentaire. Voilà.
Et donc, c'est quoi son commentaire si on n'est pas sûr ?
Quel est son argument, en fait ?
Ça promet.
Son commentaire, c'est ça promet. Okay.
Mais il a pas l'air enjaillé, quoi.
Ouais, ça promet, mais c'est ironique ou pas ?
Je ne sais pas.
Mais si t'es pas d'accord, tu peux réagir.
Yes.
Il avait envie de parler à quelqu'un, apparemment, de JC.
Peter Austria, lui, qui dit « Dommage pour Woody Harrelson de tourner dans des navets de la sorte.
Oh, » wow, ouais, ouais.
Oh, le mot point. Est lâché.
Carrément. Oh,
bah. Ah ouais,
c'est okay. Des navires, d'abord.
Bien.
Ah ouais, navets, ok, d'accord.
Okay. Ah, et notre dernier de la team français, c'est Psychus Dark, qui a écrit tout en majuscule « C'est quoi ça encore ? Triste génération. » Voilà.
Mais, ouais, mais pourquoi ?
Ça, c'est les Français, ça ?
Ouais.
Ah, putain.
Comment ceux qui ont écrit en français, quoi.
Mais comment ? Mais comment ils savent?
Je te dis, ça, c'est
des tests,
c'est les papis, tu sais, qui sont tout aigris, qui font toute la journée, ils vont sur YouTube et sur Facebook, ils font ah, ça, c'est encore un truc de cette génération de merde.
Ouais.
C'est infernal. Faudrait leur interdire de parler à
ceux qui ont 3247 avis sur les films hallucinés.
C'est ça.
Truc de ouf. Vous avez déjà regardé des comptes de mecs, genre, tu peux voir combien ils ont posté de critiques. Des fois, tu vois 3000 et quelques, voire même plus.
Ils adorent ça.
Et généralement, ils n'ont pas des goûts qui correspondent.
Généralement, c'est pour cracher du venin. Quoi.
Ouais. C'est un peu du troll, mais ancestral, quoi.
C'est ça, la France.
Bon, j'ai d'autres commentaires de gens qui, pour le coup, avaient commenté la bande-annonce VO. Donc, je ne connais pas leur nationalité, mais en tout cas, ils n'étaient pas français. Et ils étaient un peu plus enjaillés et un peu plus intéressés par ce qu'on voyait dans la BA. Donc, on a Julio Santiago. Julio Santiago.
Qui vient d'où ?
Santiago de Chili.
De Chili. Qui a écrit « C'est le genre de film qui vous fait croire au vrai cinéma et vous fait vous sentir excité et assez riche pour acheter un ticket de cinéma et du pop-corn, peu importe le jour, peu importe la semaine, juste après le travail. »
What the fuck ?
Il est très motivé, quoi. Ah, j'adore le cinéma.
J'adore la phrase qui vous font sentir assez riche pour acheter un ticket de cinéma.
Je sais pas d'où il vient, mais le cinéma, ça a l'air d'être cher chez lui.
Bah, je crois que c'est partout. Hein.
Le cinéma, c'est assez cher comme loisir.
Oui.
Hein.
Ça devient un luxe. Hein.
Oui, c'est vrai.
Ça devient un luxe.
RG Renty aussi, qui a écrit la bande-annonce avec des plans inclinés tels le bateau en train de couler, c'est du génie.
Ouais. C'est tout con, hein, mais ça fonctionne bien. Hein. C'est vrai que les peu d'images qu'on voit, moi j'ai trop envie d'être à ce moment-là où certainement il y aura quand même un gros passage du film où ça va tanguer. Quoi.
Ouais, alors après, il ne faut pas être trop sensible, parce que moi qui suis très sensible de l'oreille interne, c'est un truc à ce que ça me foute le mal de mer. Quoi.
Bon, bah,
vas-y avec un sac. Hein.
Ça ne sera pas pire que Gravity.
Ah, c'est une vraie question. Je peux te répondre si tu veux.
Mais... Je vais savoir ce que t'en avais pensé.
Gravity, t'avais le mal de l'espace. Comment
non,
ça se passe?
Non,
j'avais le mal de l'espace. Je peux pas y aller.
On peut passer au commentaire suivant. Wade West, qui a écrit. Alors, désolé parce que c'est de la traduction. J'ai pas passé des heures à traduire, donc c'est un peu littéral. Il a écrit « Les premières secondes de la bande-annonce ne m'amusaient pas du tout, mais lentement, comme un rugissement de lion, j'ai senti ce sourire apparaître sur mon visage et je ris si fort que ce film pourrait être bon, je veux le voir. »
Il a eu une grosse gaule en fait, au genre du film. Hein.
J'ai pas réussi à bien traduire comme un rugissement de lion l'idée du sourire.
Ah, trop joli la métaphore.
Peut-être une expression idiomatique en anglais.
On dirait du Mouret. J'aime beaucoup. Très poétique.
Enfin, trois derniers commentaires enjaillés. Melchizedek qui a écrit « D'abord, j'ai pensé « Oh, c'est ce genre de film. » Puis, je me suis dit « Oh, en fait, c'est ce genre de film. » À la fin, je me suis dit « Merde, c'est donc ça.
» J'adore.
Ou comment donner son avis sans le donner.
Ouais, j'aime beaucoup. Écoute, j'adore cette posture-là de commentaires.
Oui, alors, un commentaire enjaillé et un dernier qui dit les termes. Donc le dernier commentaire enjaillé, c'est Andrealine Grimmelhausen qui a écrit « J'ai hâte de voir ce film avec mes amis privilégiés pétés de thunes.
Voilà. » On ne sait pas si c'est...
Oui, c'est peut-être ironique, ouais, peut-être si... je suis un peu premier degré.
Peut-être qu'il se trouve, il est vraiment pété de thunes, hein. Il a des amis pétés de thunes. Allons voir ça, Jean-Édouard.
Et le dernier commentaire qui pose les termes est celui de Tired Off, qui a écrit « Film mis à part, beaucoup de gens ne le savent pas, mais ce n'est pas loin de la réalité. Il y a des gens très privilégiés et quand ils paient pour quelque chose, peu importe que c'est et où ils se trouvent, ils vous traiteront comme un moins que rien. Et parfois, ce sont ces mêmes personnes qui se comportent de manière très gentille par ailleurs ou qui apparaissent en public comme des champions des droits de l'homme.
Mmh. » Wow.
Ça dénonce.
Alors, il dit les termes.
Un SGW.
Ouais, là, c'est... C'est un mec de Nupes là qui nous a parlé. Là.
Ça, c'est clair. Nupes. Il parle plus, c'est fini.
Ça, c'est fini.
Ça parle plus. Nupes.
C'était juste le tube plus. De l'été, quoi.
C'est une Nupes. Il a plus.
Eh ben merci Clémence. Ça fait plaisir de voir que quand même en dehors de la France, il y a des gens plus enjaillés pour cette Palme d'Or qu'ici où on fait que tout critiquer, évidemment. Mais on ressent bien, voilà, hein, ce côté les riches c'est les méchants et les pauvres c'est les gentils. Ça se trouve, c'est ce que le film va nous démontrer, ou peut-être pas, peut-être qu'au contraire, on va être surpris.
Peut-être que les pauvres sont méchants.
Et les riches sont gentils.
Je connais quelques pauvres qui sont méchants.
Moi, je connais quelques riches qui sont gentils.
Ah ouais ? Putain, t'as de la chance.
Non, c'est faux, je connais pas de riches.
Parce que sinon, je serais pas là.
Bon, ce titre, qui en plus, une fois, n'est pas traduit correctement, Triangle de la tristesse, devient Sans filtre en français.
Et pourquoi ce choix de Sans filtre ?
Ouais, je pense que c'est en rapport avec Instagram.
Oui, l'influenceuse, l'image, ouais, ce qu'il y a
ça.
Derrière le vernis.
Voilà, c'est
et surtout, une fois qu'ils seront naufragés, ils vont être obligés de quitter tous leurs apparats sociaux.
C'est ça,
et redevenir des animaux.
Et d'ailleurs, oui, la vengeance va s'exercer sans filtre.
Mais du coup, je trouve
filtre.
Que tu perds le fond du titre, tu vois, avec le triangle sadness qui a cette référence de chirurgie esthétique, plus le côté triangle. Hiérarchique du triangle et tout. Enfin, du coup, tu perds le sens.
Perdu dans le triangle des Bermudes.
Tu gardes celui des apparences, hashtag no filter.
Ouais, voilà, mais le côté social est évincé.
Merci bien.
Ils ont essayé de trouver un truc qui était facile à prononcer aussi.
Sûrement.
L'affiche est très cool aussi. Elle est derrière toi en ça. C'est intéressant. Parce que t'as le premier plan où ça se passe trop bien, c'est la madame, elle se fait prendre en photo, et puis derrière, c'est l'apocalypse.
Une chose qu'il y a pu se voir en vrai, hein, des exemples de influenceuses ou pas, mais en tout cas des gens qui se prennent en selfie à des enterrements ou des trucs comme ça, c'est assez cringe aujourd'hui, et pourtant ça existe, quoi.
Et d'ailleurs, moi, l'affiche, elle m'avait trompée parce que je l'avais d'abord vue avec Cannes et tout, et j'avais pas vu la BA, et du coup, je pensais que ça se passait au bord de la mer, sur la plage, mais pas sur un bateau. Et j'avais pas du tout fait gaffe que sur l'affiche, on voit un bateau au loin.
D'abord sur un bateau, après au bord de la plage.
Oui, oui. Mais je pensais que ça allait être une station balnéaire, en fait. Ouais. Tu vois, un complexe comme dans Hold.
Je pensais que ça allait être un tsunami Sherman. Et que le père de famille allait fuir. Que finalement, en fait, c'était une petite vague. Il aurait fait le même film, mais avec de la neige qui a fondu. Quoi. Bon, allez, le fait ton titre, en fait, c'est ça que je voulais lancer depuis tout à l'heure. C'est parti, on se le lance tout de suite.
Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre.
Le fait ton titre, on refait le titre, on refait l'affiche en changeant Sans filtre, en oubliant Triangle of Sadness et en mettant un nouveau titre issu tout droit de nos esprits tordus. William, je te lance.
Oui, j'en ai deux qui sont pas foufou. Le premier, c'est en référence à un de ses films précédents, ça serait Island Therapy.
Pas foufou.
Ouais, non, c'est voilà. Et le deuxième, on en a, c'est en référence, c'est une référence littéraire. On en a parlé pendant le débrief de la BA, mais ça serait Sa Majesté des Bourges.
Oh, très bien. C'est noté. Clémence, des titres.
Oui, j'en ai un. C'est Galère de riches. Avec la catchphrase, ils sont tous dans le même bateau.
Oh,
vous
c'est
voyez,
pas mal.
Galère, ouais. Une galère, c'est un bateau aussi.
Ah ouais.
Heureusement
que t'as expliqué, je l'avais pas.
Ouais,
l'avais
non,
pas...
mais je sais, vous avez pas assez de vocabulaire des fois.
Ah ouais, j'ai lu Astérix, hein, excuse-moi.
Grosse merde,
hein, c'est bon,
quoi. C'est ce que c'est.
Et l'autre titre, c'est Sea, Freak and Some. Avec la catchphrase Satire à balles réelles. Mais satire écrit satire.
Et bah, ça, c'est pas mal du tout.
C'est bien, c'est bien.
J'avais le même titre.
De quoi ? Sea, Freak and Some ?
Presque pareil. Mais j'ai pas de titre.
Ah, dis, il y avait bien une variation.
Vas-y, donne ton titre.
Bah non, moi j'avais Sea, Sex and Some, mais c'est parce que t'es plus proche.
Je crois qu'on l'avait déjà mis sur l'affiche de
c'est possible.
Poisson sexe.
Après j'avais un autre. Ah oui, c'est. Ah, c'est possible.
Ouais. Merde, on a été inceptionnisé par nos propres.
Après j'avais un titre, mais c'était juste histoire de t'attraper par les sentiments. C'était Koh-Lanta Origins.
Pas ouf, hein.
Je voulais tester deux trucs que t'aimais coller.
Ah, la méthode du lèche-cul, hein, ça marche pas sur moi.
Merde, j'avais l'idée.
Koh-Lanta Origins, ok.
Non, sauf que moi, c'était Jurassic Park 2 Origins.
Pourquoi ?
Et ils sont sur une île au début.
pratiquement tous les Jurassic, ils sont dans les îles.
Oui, non, mais ça commence, t'as la croisière, les riches, ils sont sur l'île et tout ça. Non, c'était pas ma meilleure arme, ça.
Non. Non, en plus, c'est le monde perdu, ça n'existe pas Jurassic Park 2, mais
écoute, hein,
on va pas chier des bulles carrées. Hein.
Ouais, c'est pas grave.
Vas-y.
Et l'autre, c'était Lost in Vacation, et en catchphrase, accrochez-vous à vos zizi.
C'est chaud, le zizi.
Alors, la catchphrase, je suis pas convaincu. Non,
je crois qu'Ivan
essaye
d'établir une signature propre à lui.
Voilà. Je vais essayer de qu'il
j'aime bien
tout le temps.
Lost in Vacation,
ça c'est très bien, ouais.
très sympa pour parodier, évidemment. Un autre titre de film, Lost in Vacation.
Et toi, t'avais des titres ?
Bien sûr que j'ai des titres.
Ah, quand même.
Bien sûr, j'ai 4 titres.
Allez, vas-y.
Ouais, mais mon premier, là, il m'est venu en faisant l'épisode au moment où on parlait de ce fameux menu gastronomique pour le dîner du Capitaine. J'avais Conflit de Connard.
Ah j'aime bien.
Mais bon, je
y a
pense
que moi qui réagis.
Je me positionne politiquement directement avec ce titre, quoi. Ça voudrait dire que les riches sont des connards, simplement. La croisière, ça use. Ça, c'était juste pour le mettre, mais je le prendrais pas. Parce
ça serait
que
plus en cache-fraise.
Ouais, mais la croisière, ça use. Ça a tellement été fait, en fait, à travers le temps. Il y en a eu plein de parodies. C'était juste pour le dire, je ne le mettrai pas. J'avais, comme toi, William, un titre qui s'inspire de Sa Majesté les Mouches. J'avais Sa Majesté les Riches. Je trouve que ça marche mieux avec les Bourges. Et le dernier, c'était Louis Vuitton Crusoé. Louis Vuitton Crusoé.
Oui, t'es parti loin là.
Ouais, un peu technique quoi.
Écoutez, j'aime beaucoup Lost in Vacation, Sea Freak and Sam. Ça va jouer entre ces deux-là. Hein. Mm-hmm. Ça va jouer entre ces deux-là.
Moi, je vote pour Lost in Vacation.
Et bah, plutôt celui-là. Mais je crois que t'avais proposé un premier titre qui était mieux, non ?
Non, mais personne ne l'avait compris. Galère de riche.
Si, moi j'ai trouvé ça pas mal, Galère de riche, je l'avais compris tout de suite.
Mais... C'est une bonne catchphrase, Galère de riche.
Non, l'autre est mieux.
Oh, okay.
Bon, bah, pardon,
j'argumenterai plus. Ok, fais ce que vous voulez.
Attendez.
Non, bah allez, Lost in Vacation.
Donc, Sa Majesté des Bourges, c'est oublié quoi. Ok, c'était juste pour être sûr. Que tu l'avais pas oublié.
Juste pour vous rafraîchir la mémoire, au cas où.
On sait jamais, peut-être que dans toutes ces discussions, on l'a oublié. Voilà.
Écoutez, comme Ruben Östlund qui nous fait un back-to-back pour sa Palme d'Or, on a un back-to-back pour les titres parce que c'est Johan encore qui récupère le titre de la semaine.
Bravo!
Bravo, avec Lost in Vacation. Il y avait de très bons titres. Hein. C'est vrai que Galère de riche.
Elle était fine.
Mais ça marche pas mal. Ça, on peut la glisser dans une catchphrase. Galère de riche, ça tire à balles réelles, faudrait faire un mix, tu vois.
Dans cette galère de riche, ils sont tous dans le même bateau. C'est
un
super
peu long.
Bah, on verra, on va trouver un mix, mais ça finira sur l'affiche. Donc, en gros, Clémence, la catchphrase, Johan, le back-to-back pour le titre, bravo.
Et merci.
Voilà. Quel retour en puissance là.
Oui, c'est bizarre.
Désolé, j'ai pas retenu le zizi.
La force mais... du zizi. Ouais.
On sait où tu puisses ta force en tout cas. Oui, c'est ça.
Oui, si tu savais.
Bravo. William, dégoûté, comme d'hab.
Bah écoute, on reste sur le même rythme. Hein. Alors,
la semaine prochaine, c'est pas moi, t'auras peut-être une chance.
Ouh, ouais, ça va.
Bravo en tout cas, Johan, Clémence, pour la rubrique Fais ton titre. Et ben ça marque déjà la fin de notre épisode.
Oh.
Mais oui, ça y est, c'est fini.
Non, enfin.
La croisière arrive à son terme, il va falloir accoster. Mais oui. Voilà, c'était l'épisode bande-annonce de la Palme d'Or 2022, le film de Ruben Östlund, ce génie suédois du cinéma, qui nous revient avec Sans Filtre, Triangle of Sadness in VO. Et ça, c'était nos attentes autour du film, on ira voir ça dès le 28 septembre en salle. Retrouvez-nous, si vous avez aimé cet épisode, sur tous les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, Instagram, ou bien aussi sur les autres plateformes d'écoute que celles sur laquelle vous nous écoutez actuellement, comme par exemple Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Et si, là où vous nous écoutez, ça permet de mettre des notes, n'hésitez pas à venir nous en mettre une petite. Nous, ça nous aide beaucoup. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle BA. On sait pas encore quoi, on va réfléchir de notre côté. Et puis d'ici là, portez-vous bien.
Et bisous.
Ciao.
Bisous. We gon' make it.
will be marvelous.
Ruben Östlund. 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 Ruben Östlund.
Tu m'as tellement planté.
Ah, Östlund. 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 Ruben Östlund. Östlund.
C'est Ruru.